France Culture.
La France serait la championne de l'épargne et les Français mettent de côté une part de leurs revenus bien supérieure à celle de leurs voisins européens. Au total, 426,8 milliards d'euros sont maintenus au chaud sur les livrets A de développement durable et solidaire et autres LEP pour le fameux livret d'épargne populaire à la fin de l'année 2024. Un pactole qui ne dort pas pour autant puisqu'il alimente une bonne partie de l'économie, mais pas nécessairement celle dont rêvent les pouvoirs publics. Circuler, tel est le mot d'ordre pour relancer une économie en mal de consommation et de financement. Mais comment faire pour modifier des comportements solidement ancrés dans des décennies de construction d'un certain rapport à l'argent? Car de crise en crise, cet argent, et surtout la façon dont les individus entendent le faire fructifier ou pas, raconte en creux la façon dont les Français envisagent l'avenir et donc la fonction initiale de ces fameux bas de laine. Entre les prudents et les flambeurs, émerge surtout le poids des inégalités socio-économiques face à un futur qui semble de plus en plus incertain. Retour donc sur les mécanismes de l'épargne et sur les déterminants de ce choix qui est loin d'en être toujours un, dans une émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Noé Chabal. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui en studio, Cigale ou Fourmi, on ne sait pas, ils nous le diront peut-être. Anne Perrin-Heredia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS et rattachée au Centre de recherche sur les liens sociaux. Également avec nous en studio, Philippe Crevel, vous êtes économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Alors un fait majeur apparaît dès lors que l'on s'interroge sur les fameuses motivations des Français à épargner, un fait résumé dans un chiffre. 18%, soit le taux d'épargne des ménages français en 2023, soit 6 000 milliards d'euros en tout, si on prend tout agrégé, soit un des plus élevés d'Europe. Anne Perrin-Heredia, vous étudiez en tant que sociologue depuis un certain temps le comportement des Français face à leurs revenus. Est-ce qu'un tel chiffre vous étonne ou est-ce qu'il s'agit d'une tendance que l'on retrouve depuis un petit bout de temps déjà ?
Oui, alors je vous remercie pour cette question. Peut-être que d'abord, je peux préciser aussi un peu plus précisément depuis où je parle, parce que je pense que ça éclairera aussi les réponses que je pourrais apporter, étant donné que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les budgets et la consommation des classes populaires, c'est-à-dire ceux qui, justement, se caractérisent plutôt par leur faible revenu et leur faible niveau d'épargne. Et donc, une des choses intéressantes qu'on peut aussi essayer de se dire, c'est que quand on regarde les cas limites, on voit aussi des choses particulièrement intéressantes et en particulier sur l'épargne et donc le fait que ces épargnes des classes populaires, des milieux les plus modestes sont moins importantes, ça c'est une évidence, mais elles portent aussi davantage sur des épargnes de précaution plutôt que sur des investissements. Et dans ces cas, on comprend aussi pourquoi dans des périodes de crise, dans des périodes de transition, dans des périodes d'incertitude comme celles qu'on peut voir actuellement, les épargnes sont beaucoup plus importantes, ou en tout cas le taux d'épargne peut augmenter, mais c'est pas la seule des raisons, mais je laisse...
Mais ce qui est extrêmement important dans ce que vous venez de nous dire, c'est qu'effectivement, on dit épargne de façon très large et qui englobe un peu tout. Mais c'est vrai qu'on va chercher tout au long de cette émission à distinguer peut-être ce qui relève de cette fameuse épargne de précaution, à ne pas confondre avec l'investissement en lui-même. D'aucuns parlent aussi d'épargne d'anticipation. C'est peut-être aller encore plus loin que la précaution. Anne Perrin-Heredia, justement, une autre question peut-être sur ces fameux 18% et justement de ce point de vue-là aussi des ménages les plus modestes. Il faut sans doute se méfier d'une moyenne, on le disait, 18%, c'est une moyenne. Est-ce que cela cache une réalité beaucoup plus polarisée que cela entre les ménages français ?
Oui, alors c'était bien évidemment ce que je comptais, ce sur quoi je comptais insister, c'est que les moyennes nationales, elles écrasent beaucoup de choses. Et donc, quand on parle de 18% de taux d'épargne, bon, déjà, c'est un taux d'épargne en brut. Déjà, quand on regarde en net, on n'a pas exactement les mêmes chiffres, que c'est plutôt 11%, ce qui rend un peu compte. Et surtout, c'est qu'est-ce qui écrase ces moyennes ? Et on voit en réalité qu'elles écrasent des différences qui sont en réalité abyssales selon les niveaux de revenus en particulier, puisque effectivement c'est le niveau de revenus qui prime, mais c'est pas la seule des dimensions qui compte dans la répartition, dans les différences sociales de l'épargne. Donc pour donner quelques chiffres quand même, parce que c'est assez éclairant, déjà la médiane autour de la médiane, c'est-à-dire 2400 euros par de revenus disponibles nets. Donc c'est-à-dire la moitié des Français qui se trouvent qui gagnent moins et la moitié des Français qui gagnent plus. Donc autour de cette médiane, le taux d'épargne il est à 6%, ce qui relativise déjà beaucoup. Oui. Et donc ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder les 20% des Français les plus riches qui épargnent eux un quart de leurs revenus, 25%. Alors que les 20% les plus pauvres, eux, désépargnent en réalité, ou en tout cas s'endettent. Donc ça, c'est le petit flou. Et là, c'est plutôt à hauteur, c'est 29%, donc c'est 30% de leurs revenus, ou presque. Donc là, on voit que quand en fait, en réalité, on dit les Français épargnent 18% de leurs revenus, bon déjà, c'est... De quel revenu on parle et surtout de quel français on parle. Et on voit bien que quand on parle des Français en général, en réalité, on masque des réalités sociales qui sont très diverses. Et si je peux encore rajouter quelques points, c'est que j'ai parlé du niveau de revenu, mais c'est pas du tout la seule des dimensions. Il y a, selon les catégories socio-professionnelles, c'est intéressant de voir que c'est 20% des cadres. Le taux d'épargne des cadres est de 20%, alors qu'il n'est que de 2 à 4% pour ce qui est des employés ou des ouvriers. C'est des différences aussi selon le niveau de diplôme. Ceux qui ont Bac plus 3, ils épargnent beaucoup plus que ceux qui ont juste le brevet, par exemple. Et c'est aussi des différences selon la configuration familiale, c'est-à-dire que les familles monoparentales, elles épargnent, voire elles désépargnent, puisque c'est moins 1%, alors que les couples sans enfants, eux, épargnent beaucoup. Donc c'est des situations sociales qui sont fortement corrélées aux revenus. Mais si je peux... terminer juste parce que ça me semble quelque chose d'important à souligner, c'est qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que c'est une presque une lapalissade ou un truisme, enfin un lieu commun en tout cas, de dire qu'on épargne en fonction de son revenu, ou que donc les plus riches, c'est une évidence qu'ils vont épargner plus que les plus pauvres. Mais ce que même en disant ça, en fait, la réalité qui est encore masquée quand on dit ça, c'est-à-dire que finalement, on pourrait s'en sortir à bon compte en disant que on a réglé le sort de la question des inégalités. En réalité, le taux d'épargne n'est pas du tout proportionnel au revenu. Et donc, si c'était le cas, si le taux d'épargne était proportionnel au revenu, ça voudrait dire que les plus riches, en proportion, épargneraient autant.
On aurait une courbe beaucoup plus lisse. Oui.
Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et on voit bien que c'est des écarts abyssaux qui relèvent d'inégalités économiques, mais aussi d'inégalités sociales, et qu'elles se cumulent et se conjuguent et se renforcent.
Et on va voir quelle est la nature, finalement, de ces inégalités-là, et puis quels sont les facteurs qui jouent autre que le revenu, puisque c'est assez mécanique, on comprend la démarche, mais vous l'avez déjà un petit peu amené sur la table, Anna Perrin-Heredia. Il y a notamment cette question de la proximité avec une certaine culture financière, mais on va y revenir. Philippe Crevel, est-ce qu'il existe, selon vous, une culture française spécifique de l'épargne, ou une culture spécifiquement française de l'épargne, c'est selon? Est-ce que ce fameux chiffre de 18%, alors on a compris que c'était que beaucoup de choses se cachaient derrière, mais est-ce que ce fameux chiffre de 18% des revenus qui serait épargné témoigne finalement d'une place particulière de la France vis-à-vis de l'épargne?
Alors, les Français sont des fourmis. 7 Français sur 10 déclarent épargner peu, voire beaucoup, de leurs revenus chaque année. Bon, l'épargne, c'est la renonciation à la consommation en vue, pour faire face à une peur, à une crainte, l'épargne de précaution, ou pour un projet, ou pour transmettre donc à des héritiers donc désignés ou pas. Donc, et c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la tradition française. Les Français, avec les Allemands, au niveau donc de l'Union européenne, sont ceux qui mettent le plus d'argent de côté. Les Allemands, c'est 20% de leurs revenus qui sont épargnés chaque année. Alors, la tradition, évidemment, c'est assez complexe, parce que là, on est d'ailleurs également sur la sociologie comportementale. Pourquoi nous épargnons plus alors que nous avons un système d'État-providence qui est extrêmement développé, qui, malgré ses problèmes, ses crises, est un des plus importants au sein de l'OCDE.
Et qui pourrait donc servir de filet de sécurité.
Tout à fait.
Face à ceux qui seraient averses au risque.
Mais malgré tout, il y a la crainte de manquer, la crainte de ne pas avoir de travail, de problèmes de santé. Et puis, il y a quelque chose, parfois, d'atavique, dans le sens où on a appris, donc, de génération en génération, à mettre de l'argent de côté. Par exemple, la création du livret A. Il y a plus de 200 ans, c'était à la fois pour faire tirer un trait sur la période révolutionnaire qui était un peu anarchique sur le point de vue financier, la période napoléonienne, et d'autre côté, c'était d'apprendre justement aux Français de tenir un budget. La notion même, le mot livret, c'est un endroit où on inscrit l'argent qu'on a mis de côté et on le garde à la maison. Vous avez mis 200 francs à l'époque et vous le savez. Et c'était du style, bah, vous avez votre réserve. Et donc, il y avait un aspect extrêmement pédagogique. Mais si je vais, bien avant, nous avons une tradition paysanne et le paysan est forcé d'épargner pour justement ensemencer l'année d'après. Il doit conserver des graines suffisamment pour pouvoir faire son champ la saison d'après. Et donc, ce genre de comportement, de génération en génération, se transmet. Et bizarrement, aujourd'hui, nous sommes à plus de 3/4 de la population. Donc, nous vivons dans des villes et nous avons conservé ce comportement. Et on apprend aux enfants, mettre de l'argent de côté, c'est important. On va t'ouvrir un livret A. C'est important. 85% de la population française a un livret A. Alors, je reviendrai sur l'histoire des 18%. C'est vrai que c'est important. Mais il y a deux composantes dans l'épargne. Il y a la composante très classique de l'épargne financière. C'est le livret A, c'est l'assurance vie, c'est le compte titre. Et puis il y a l'autre composante qui est le remboursement du capital des emprunts immobiliers. Ça représente à peu près 9 à 10%. Donc plus de la moitié des 18%, c'est le remboursement du capital des emprunts immobiliers.
Et qui est considéré comme un effort d'épargne.
Et c'est un effort d'épargne parce qu'on rembourse un investissement qu'on a fait. Ce qui explique que, par exemple, les jeunes actifs sont souvent avec un taux d'épargne financière très faible, mais remboursent le capital parce qu'ils ont acquis leur résidence principale. En France, la moitié de la population, plus de la moitié de la population, 57% donc des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Mais une partie d'entre eux sont en cours de remboursement. Quand on arrive à l'âge de la retraite, 75% des personnes qui partent à la retraite sont propriétaires de leur résidence principale. Et donc, on voit bien qu'il y a eu un effort d'épargne conséquent pour, justement, constituer ce patrimoine immobilier.
Et arriver à cette situation-là où on peut en jouir sans
et donc, y a,
avoir cet effort-là.
Il y a eu un effort d'épargne obligatoire pour rembourser donc, ces emprunts. Et c'est la différence entre épargne brute et épargne nette. L'épargne nette, c'est justement en remboursement des emprunts immobiliers ou des emprunts pour les crédits à la consommation, le cas échéant.
Alors, pour bien comprendre ce portrait robot que vous avez commencé à dresser, Philippe Crevel, de l'épargnant ou de l'épargnante, et puis comprendre ce rôle de l'épargne et dans quelle mesure il est ou pas compatible avec les raisons qui font que les individus mettent de côté, je vous propose d'écouter cette archive de 1970, car déjà, on se posait la question sur l'ORTF.
L'an dernier, l'épargne brute totale a atteint en France 188 milliards de francs, soit environ 30% de la production intérieure brute. C'est que l'incitation à l'épargne a été l'un des grands thèmes des dernières années. Mais les résultats, encore qu'encourageants, n'ont pas entièrement répondu aux espérances des responsables de l'économie nationale, car l'or thésaurisé par les ménages représente encore la valeur de 300 000 logements, ou de 6 000 km d'autoroute, ou encore de 6 années d'investissement de l'électricité de France. Aujourd'hui, l'émulation sociale, le désir pour chacun d'avoir un certain standing, crée de nombreux besoins, l'automobile par exemple, qui augmente la consommation individuelle. Autre facteur, l'âge. Jusqu'à 25 ans, les jeunes disposent d'une épargne liquide relativement forte, mais avec le mariage et la vie en ménage, commence une période d'une vingtaine d'années pendant lesquelles ils n'épargneront pas, s'efforçant simplement de rembourser les divers emprunts contractés. Après la cinquantaine, les besoins en équipement étant satisfaits et la retraite approchant, la tendance à l'épargne réapparaît. Autre facteur, la profession, la stabilité de la monnaie, la stabilité politique, mais aussi bien sûr les charges fiscales et le niveau du taux de l'intérêt.
Philippe Crevel, cette archive de 1970 raconte beaucoup de choses. On peut, si on creuse bien, y trouver à peu près tout le fil rouge de cette émission, puisqu'elle prend en charge finalement tous les enjeux de l'épargne, et à commencer par cette apparente contradiction. On a presque l'impression qu'il y a deux intérêts parfois incompatibles qui s'affrontent, ceux d'un État qui doit moderniser son pays, qui doit financer un certain nombre d'infrastructures dans ce cas précis, et ceux des individus qui, on l'entendait aussi, ont leurs propres aspirations, leurs propres désirs, leur propre façon d'envisager l'avenir aussi par rapport à leur statut social. Finalement, c'est assez représentatif de ce qu'on retrouve aujourd'hui, Philippe Crevel.
La problématique demeure évidemment aujourd'hui à travers le fait que l'État, premièrement, a besoin d'épargne, et je dirais plus globalement l'économie, parce que l'épargne, c'est pas de l'argent qu'on met dans un coffre, et l'épargne ne dort pas, hein, sauf quand on met évidemment sous son matelas. Mais dès qu'il y a donc une épargne financière gérée par les établissements financiers, elle est utilisée pour financer l'économie, pour financer l'État à travers donc par exemple les fonds euros de l'assurance vie, hein, qui vont financer le déficit de l'État, à travers le livret A qui va financer le logement social et donc la création de logements HLM. Donc c'est important pour l'État d'avoir suffisamment d'épargne pour orienter donc ses dépenses, pour les entreprises pour investir. Donc l'épargne est au cœur du système économique contemporain en tant que tel. Après, évidemment, l'épargne, c'est une décision personnelle, c'est une renonciation à la consommation, c'est un pari sur l'avenir. Je mets de l'épargne, de l'argent de côté. C'est pour le retrouver, c'est pas pour le perdre. Et donc, il faut avoir confiance, comme ça a été dit dans le reportage, avoir confiance dans les établissements financiers, dans la croissance, dans la... Parce que s'il y a beaucoup d'inflation, par exemple, ça va éroder complètement le capital. Nous avons connu ça ces 2-3 dernières années. Et donc, il faut avoir... C'est un pari sur l'avenir. Et puis, c'est vrai qu'il y a un cycle de vie. Même si c'est un peu stéréotypé, la façon de dire que, voilà, au début, il faut monter, on est en ménage, etc. La vie, c'est un peu compliqué depuis les années 70, où c'est un peu libéré, on va dire, pour être positif. Mais néanmoins, il y a quand même des grands moments, l'acquisition de la résidence principale, la préparation à la retraite, le financement d'un projet professionnel, et puis se faire plaisir. Parce qu'on épargne pour se faire plaisir, pour réaliser un projet, pour partir en vacances ou pour monter son entreprise.
Anna Perrin-Heredia, cet extrait sonore nous offre, on le disait, finalement une forme de portrait robot de l'épargnant en fonction de son âge et de ses attentes. Est-ce que ce portrait-là, comme avait l'air de l'insinuer Philippe Crevel, ce portrait-là a-t-il beaucoup évolué? Est-ce qu'on retrouve cette polarisation entre les catégories de population plus jeunes et plus âgées? Lorsqu'on dit de façon générale les ménages français pour comprendre leur comportement face à l'épargne, de qui parle-t-on aujourd'hui, juste en 2025?
En 2025, oui. Oui, alors juste me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je trouve que c'est très intéressant de penser justement l'opposition entre les logiques étatiques et les logiques domestiques, donc entre l'intérêt que l'État peut avoir à ce que les ménages épargnent et puis l'intérêt que les ménages peuvent avoir eux de leur côté à épargner, qui sont pas toujours congruentes, justement. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est de souligner le paradoxe dans lequel, aussi du point de vue de la puissance publique, entre le fait qu'effectivement il faut que les ménages puissent, qu'il y ait une épargne des ménages pour pouvoir investir, etc. Mais cette épargne, cet argent qui serait investi dans l'épargne, il n'est pas consommé. Et s'il n'est pas consommé, c'est aussi des recettes fiscales qui sont en moins. Et donc il y a aussi
la fameuse TVA, entre
autres. Et donc la TVA. Et donc c'est aussi, donc quand on dit les ménages épargnent trop, c'est aussi parce que ça fait des recettes en moins. Donc c'est toujours cette... Et il me semble que ce qu'on voit sur la logique étatique, ou de la puissance publique, cette ambivalence entre investissement et recettes, on la retrouve aussi chez les ménages. Et que ce qu'elle révèle aussi, c'est aussi cette tension entre épargne productive et épargne improductive. Le fait qu'il y ait une épargne qui rapporte, qui soit intéressante, qui puisse être un investissement, et une épargne, au contraire, qui, vous avez dit, celle qui dort sous les matelas ou dans les bas de laine, etc. En fait, c'est souvent une épargne dont on ne parle pas. Et,
qui échappe au circuit officiel, on va dire.
Et qui aussi est une épargne qui ne compte pas. Et cette épargne, c'est une épargne, parce qu'elle disparaît de la statistique publique, ne serait-ce que pour ça. Celle qui est dans les bas de laine, etc. Et donc, c'est aussi de quelle est l'épargne qui compte, ou l'épargne de qui.
Enfin, qui participe à l'économie aussi via
cette. Donc, c'est souvent ceux qui comptent, CEX, et celles et ceux. Mais bon, en l'occurrence, je n'ai pas parlé des différences de genre en termes d'épargne tout à l'heure, mais j'aurais pu rajouter la question du genre qui joue aussi à plein. Voilà.
Philippe Crevel, vous dodelignez de la tête l'évocation de cette autorisation hors circuit.
L'épargne hors circuit, hein, donc, on arrive un peu à la mesurer à travers. Le poids des numéraires, donc des billets et des pièces en circulation. Donc, or, assez bizarrement, aujourd'hui, nous payons de plus en plus avec des moyens digitaux, avec des cartes bancaires ou avec son téléphone. Or, la demande de billets et de pièces augmente. Et la Banque de France estime qu'il y a plus de 280 milliards d'euros chez les ménages en argent liquide. Alors, ça peut être évidemment pour des circuits parallèles, plus ou moins légaux, mais c'est également comme en Allemagne. Les Allemands, par exemple, adorent avoir chez eux le fameux billet de 500 euros qui a été créé, soi-disant, pour les Allemands, parce que ça les rassure d'avoir de l'argent liquide dans leur domicile. Mais en France, on constate qu'il y a une petite augmentation également en la matière et que les Français aiment avoir une réserve de cash. Et donc, il y a une augmentation en particulier avec la crise sanitaire, le Covid. On s'est dit, il faut avoir de l'argent liquide en cas de nécessité, d'urgence, etc.
Parce que Philippe Crevel est relativement irrationnel en cas d'inflation, pour le coup. Parce que là, on sait que l'argent va perdre de sa valeur.
C'est complètement irrationnel, évidemment. Sous le matelas, l'argent ne fait pas de petit. Et donc, évidemment qu'il y a une perte. S'il y a une inflation de 10%, vous avez perdu 10% de votre valeur durant l'année.
Bon, il n'y a pas de hasard et tout ça est assez mathématique. Si on va un tout petit peu plus dans le détail, il s'avère qu'il y a deux façons d'épargner qui battent un peu tous les records. Dans son rapport publié le 14 juillet 2024 et qui fait le bilan de l'année précédente, donc 2023, la Banque de France parle d'un record pour le livret A qui concentre à lui tout seul 36 milliards d'euros et le livret d'épargne populaire qui en collecte 16,6 milliards, soit trois fois plus qu'en 2022. Or, et c'est là un paradoxe qu'il faut aborder de front, Philippe Crevel, ce sont des années qui ont été marquées par l'inflation. Pourquoi, malgré la hausse des prix, les Français n'ont pas grignoté sur leur épargne, voire même ont abondé, on va dire, leur bas de laine dans ces deux livrets-là?
Alors, c'est vrai que nous connaissons depuis 2020 donc des années avec des montants d'épargne extrêmement élevés. La succession de chocs, Covid, guerre en Ukraine, crise politique, inflation, ont conduit les ménages à mettre plus d'argent de côté. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, surtout quand, dans le même temps, il y a des enquêtes qui révèlent les baisses de pouvoir d'achat, les difficultés des ménages les plus modestes. Alors, comme cela a été dit précédemment, évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes entre ceux qui épargnent et ceux qui sont contraints et sont face à des difficultés. Mais malgré tout, les Français, en période d'inflation, mettent de l'argent de côté parce qu'ils craignent que demain, ce soit pire, que les prix augmentent davantage. Donc, c'est pour ça que dans la période inflationniste que vous avez citée, en 2022-2023, il y a eu des records sur le livret A parce que les Français se disaient ça va être pire demain, je ne vais pas pouvoir payer donc mes dépenses contraintes et je préfère me créer une cagnotte. Alors c'est vrai que le Français a eu un comportement complètement différent de celui de l'Américain. L'Américain, c'est un consommateur. L'Américain, globalement, dès qu'il y a un gain, il consomme. Et le taux d'épargne aux États-Unis a fait comme en France pendant la période du confinement. Il est monté jusqu'à 27-28% du revenu disponible brut. Mais dès que les confinements se sont achevés, l'Américain, il s'est remis à consommer. Et aujourd'hui, le taux d'épargne des Américains se situe aux alentours de 7-8%, 10 points en dessous du niveau français. Donc là, il y a des comportements complètement différents. Le Français, comme d'ailleurs les autres Européens continentaux, nous sommes des anxieux. Nous sommes angoissés, et nous mettons de l'argent par précaution. Et c'est pour ça que le livret A a connu une collecte majeure. Il y a eu une autre raison. C'est que le taux de rendement, qui a été longtemps à 0,5%, est passé de 2022 à 2023 à 3%. Même s'il y avait de l'inflation. Parce que c'est vrai qu'il faut toujours raisonner en rendement réel.
Oui, c'est une réflexion
de l'inflation. Mais malgré tout, au niveau donc de l'affichage, 3%, les Français se sont dit « ça devient intéressant, je mets mon argent ». Ils n'ont pas complètement eu tort, parce qu'ils avaient laissé beaucoup d'argent sur leur compte courant. Il y avait donc en septembre 2022 plus de 540 milliards d'euros sur les comptes courants. Ils ont un peu dégraissé les comptes courants pour le remettre sur le livret A, sur le livret de développement durable et sur le livret d'épargne populaire.
Je rappelle tout de même, et notamment dans ce contexte très particulier qui a été cette absence de consommation forcée et contrainte de fait pendant les confinements successifs. Je rappelle que les 20% de ménages les plus aisés ont thésaurisé 70% de la croissance du patrimoine financier accumulé entre mars et août 2020. Donc là encore, on retrouve à Anna Perrin-Heredia cette forte distinction qu'il y a à faire. Mais plus globalement, c'est intéressant tout de même ce que nous dit le comportement des Français face à cette crise, notamment sanitaire du Covid-19. Le lien, il est direct, il est automatique. On pouvait beaucoup moins consommer qu'avant, du fait des confinements, on ne sortait plus, etc. De fait, certains ont beaucoup épargné, d'autres beaucoup moins. Ça dit quelque chose sur la place aussi de la consommation dans ce choix qui, de fait, n'en devient plus un de l'épargne. C'est un déterminant essentiel.
Oui, alors je rebondis encore parce que ça m'intéresse beaucoup, mais du coup je trouve que ça vaut le coup de souligner quand même que c'est livré en fait à chaque fois, c'est une épargne qui est disponible, qui est liquide et qui est immédiatement disponible, comme quand on l'est sur un compte courant. Ce qui est une grosse différence avec d'autres formes d'épargne, qu'elles soient patrimoniales ou des investissements dans des actifs ou dans des assurances-vie, où là, on voit bien que la disponibilité, elle est moindre. Ça, c'était juste un petit...
Mais c'est important de le dire, vous avez raison, parce que c'est, même psychologiquement, c'est cette idée de se dire qu'elle est mobilisable, voilà, on peut la trouver tout de suite sous la main en cas de problème.
Tout de suite. Et donc, sur... rappelez-moi, pardon.
Sur ce que nous dit le poids de la consommation.
Et l'épargne, ouais, en fait, ce qui me semble vraiment très... très important aussi, c'est de jamais penser comme étant décorrélé épargne et consommation, mais de les penser comme faisant partie d'un budget global. Donc vous avez dit tout à l'heure quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, vous avez dit épargner, c'est renoncer à la consommation. Et c'est aussi une définition qu'on peut retrouver dans pour l'INSEE, qui est de dire que en fait c'est la part du revenu qui n'est pas consommée ou qui n'est pas dépensée, mais à chaque fois dans cette idée-là, en réalité la consommation, elle est toujours pensée comme... Enfin, l'épargne, elle est toujours pensée comme cette part de la consommation qui relèverait du surplus. Et c'est donc... c'est aussi ce que pourrait laisser penser la question du Covid, où en réalité, on consomme tout ce qui est loisirs, par exemple. On n'a pas pu faire. Cet argent qui était disponible pour ce type de dépenses n'est plus dépensé. Et donc... épargner. Et ce qui me semble intéressant, c'est d'aller regarder, encore une fois, du côté des milieux les plus modestes, où on se rend compte qu'effectivement, ils ont beaucoup moins de capacité d'épargne. Ça, c'est une évidence, puisqu'ils ont moins de revenus. Mais c'est aussi sur quelle part de la consommation ils épargnent. Et la part de la consommation sur laquelle ils parviennent parfois et très difficilement à épargner, mais je reviendrai sûrement là-dessus, c'est pas tellement justement cette consommation de surplus, mais c'est une consommation qui relève en réalité du nécessaire,
du quotidien,
etc. Et donc c'est souvent, et c'est là où c'est la renonciation à pas n'importe quoi, c'est la renonciation à du nécessaire, à de l'indispensable, et pas à du superflu. Et donc c'est là où le taux d'effort est aussi beaucoup plus important.
Alors on l'a dit, ce qui explique, on va dire aussi que les Français se soient beaucoup tournés vers leur livret A et autres livrets pendant ces temps de confinement et de Covid, c'est aussi parce que les taux étaient particulièrement intéressants, ou en tout cas perçus comme tels. On verra si la réalité ne les a pas rattrapés. Or, c'est justement ces temps de 3% prennent fin le 15 janvier dernier. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gao, a mis une proposition sur la table, baisser le fameux taux du livret A, et il insistait sur l'importance d'un autre livret, celui dit d'épargne populaire.
En lien avec le reflux de l'inflation et des taux de refinancement, je propose ce matin même au ministre des Finances un taux du livret A ramené de 3% à 2,4% à compter du 1er février, ce qui est un taux encore nettement supérieur à l'inflation, je rappelle 1,3%. Mais sur le livret d'épargne populaire, qui est le produit le plus protecteur de l'épargne des plus modestes, je préconise que son taux soit fixé à 3,5%, soit très significativement au-dessus de la formule mécanique qui donnerait 2,9%. Le nombre de LEP est... j'y insiste, a fortement augmenté, ce qui est bien pour atteindre 11,7 millions à fin octobre. Mais les banques peuvent et doivent faire encore mieux, avec l'appui d'une campagne d'information de l'administration fiscale vis-à-vis des 19 millions de Français pouvant être intéressés. Ça me paraît un vrai axe de développement cette année pour l'épargne populaire.
Anna Perrin-Hérédia, ce qui est intéressant, c'est que l'autre livret qui connaît un grand succès, le fameux LEP pour livret d'épargne populaire, a connu un taux de rémunération de 6% au second semestre 2023, puis 5% en février 2024, puis 4% le 1er août 2024. Bon, voilà, on voit que ça baisse progressivement, mais ça reste toujours supérieur à l'inflation. Entre 2022 et 2023, ce livret avait gagné 4 millions d'épargnants, soit 34 milliards d'encours. C'est une façon d'épargner qui se veut volontairement avantageuse. On l'entendait là dans cet extrait de François Villeroy de Gao. Il y a une notion de promotion presque, de faire une campagne pour inciter les ménages à épargner sur ce livret spécifiquement qui, on l'a dit, est particulièrement rémunérateur. Il y a une forme là de paradoxe qu'il faut nous expliquer. Pourquoi inciter, on va dire, les Français à placer cet argent, à le mettre sur ce livret-là, alors même qu'on pourrait se dire, bon, voilà, si c'est mieux rémunéré, c'est que ça coûte potentiellement plus cher aux banques. Alors certes, il y a des conditions, mais tout de même, c'est ça interpelle d'avoir cette notion de promotion, là, Anna Perrin-Heredia.
Oui, alors effectivement, ça a de quoi interpeller et paraître paradoxal, mais en même temps, c'est effectivement de l'argent où on se dit, si on incite davantage ces catégories de population qui sont celles qui épargnent le moins, le rendement ou l'intérêt, ensuite pour l'État, dans la logique dont on parlait tout à l'heure.
De récupérer cet argent qui aurait échappé sinon au circuit officiel.
Voilà. Mais donc la question, c'est là, si on se place du point de vue des ménages, quelle est la raison pour laquelle, justement, il n'y a pas davantage d'épargne qui pourrait être placée sur ces livrets d'épargne populaires, notamment, qui sont particulièrement intéressants. Et donc là, je me permets de donner quelques exemples que j'ai pu rencontrer au cours de mes enquêtes sur les classes populaires, qui me paraissent justement très éclairantes pour comprendre quelles sont les logiques, en fait, qui président au placement de l'épargne, en tout cas au fait de thésauriser de telle ou telle façon. Et donc là, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez important, c'est qu'à chaque fois, là, quand on parle d'épargne monétaire. C'est un peu l'archétype de l'épargne.
C'est ce qui vient spontanément en tête.
Voilà, c'est celle que, donc, qu'elle soit placée, donc celle qui est disponible, liquide, etc. Mais c'est aussi celle dans des Badlands, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc, pourtant, dans les enquêtes que j'ai pu faire, l'épargne populaire, elle se fait en réalité le plus souvent en stock. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est beaucoup plus difficile de garder 15 euros. par mois ou à la fin du mois ou de placer 15 euros sur un livret que de dépenser 15 euros en boîte de cassoulet, par exemple.
Parce que quand vous parlez de stock, c'est vraiment de denrées alimentaires.
Oui, je précise. Non. Donc, ça va être des achats alimentaires, ça va être des produits d'hygiène et d'entretien. Donc, ça va être... les enquêtés que j'ai pu rencontrer, ils ont des cagibis qui regorgent. Il y en a certains qui m'ont fait visiter ça comme une pièce à part entière dans leur appartement. Ils ont un congélateur, parfois deux congélateurs dans lesquels ils stockent. Et donc, il y a des grosses pratiques de stockage. Et en fait, ça, c'est des pratiques, pour moi, d'épargne populaire et d'épargne en stock ou en nature. Parce que l'idée, c'est bien de lisser la consommation dans le temps, d'anticiper les coups durs, de se réserver quelques petits agréments quand l'argent viendra à manquer. Et cette épargne-là, elle disparaît complètement des livrets, etc.,
de l'officiel et
officiel de l'épargne. Et pourtant, c'est bien une forme d'épargne.
C'est mettre de côté pour
part entière. Ouais. Donc ça, je donne des exemples d'épargne en stock, mais en réalité, il y en a plein. Ça peut être aussi des vêtements qui sont... J'avais une enquêtée qui achetait des vêtements 3 ans à l'avance au moment des soldes, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est des façons d'anticiper l'avenir aussi, mais qui disparaissent complètement.
Et ça fait totalement partie de stratégies, effectivement, de prévention face aux risques potentiels. Voilà. Et en période d'inflation, là encore, on pourrait se dire
encore plus.
Il y a une forme de rationalité.
Et aussi, et la rationalité qui me semble, sur laquelle je voudrais encore plus insister, si c'est possible, c'est que il y a tout un tas d'expressions populaires courantes qui consistent à dire que l'argent liquide, ça glisse entre les doigts, voire ça brûle les doigts, etc. En tout cas, ça montre à quel point c'est beaucoup plus difficile à garder. Et une fois qu'elle est stockée, en revanche, c'est de se dire, elle est, j'ai un collègue argentin qui racontait comment en Argentine les ménages achetaient des briques pour construire leur cuisine et ils construisaient leur cuisine brique par brique en réalité. Et donc c'est des façons de solidifier cette épargne et de faire en sorte qu'elle ne se dilapide pas, et alors que la mettre sur un épargne populaire, même très bien rémunéré, ou la mettre dans une enveloppe, en réalité la tentation d'aller la chercher à la fin du mois, elle est très grande et surtout elle est très facile. Alors que dépenser, c'est pour ça que je donnais l'exemple des boîtes de cassoulet, à mon avis, il est assez intéressant parce que avec 15 euros par mois, avec 15 euros chez Leclerc, on achète 13 boîtes de cassoulet de 500 grammes. Les manger d'un seul coup, c'est beaucoup plus difficile que de dépenser 15 euros, alors que 15 euros, ça se crame, tout le monde le sait très bien et beaucoup plus facilement. Et donc, c'est aussi ces arbitrages du point de vue des ménages entre une épargne qui est liquide, qui est disponible et qu'on va beaucoup plus difficilement conserver, et une épargne solide en stock.
Donc, il y a une forme d'auto-rationalisation des comportements face à ce risque potentiel d'arriver finalement à épuisement, on va dire, du budget. Philippe Crevel, on est passé de 37% de personnes éligibles qui détiennent effectivement un livret d'épargne populaire fin 2021 à 60% aujourd'hui. C'est un sacré bond, une sacrée augmentation. En quoi cela peut être vu comme une victoire? En tout cas, c'est ce que disait François Villeroy de Gao. C'est ainsi qu'il le qualifiait.
Il est certain que Il y a encore quelques années, les Français avaient le réflexe du livret A. Plus de 4 Français sur 5 donc, avaient un livret A. Or, un certain nombre, la moitié, étaient éligibles au livret d'épargne populaire. Et donc, ils se privaient de facto d'un rendement plus élevé en n'ouvrant pas un livret d'épargne populaire. C'était complexe d'avoir un livret d'épargne populaire il y a encore 7-8 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait donner à son banquier donc son avis fiscal. Français n'aiment pas donner leur déclaration d'impôt à leur banquier. Ils se méfient toujours un peu du banquier. Et puis d'autre part, il fallait tous les ans prouver qu'on était éligible.
Oui, qu'on remplissait.
Et donc il fallait donner tous les ans. Donc bon, globalement, on oubliait. En plus, c'était une population qui ne faisait pas forcément de déclaration d'impôt parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas imposables. Donc il leur manquait le document. Il fallait qu'ils aillent donc soit sur Internet, mais parfois il y a des problèmes également d'accès donc numérique. Et donc, ils n'avaient pas forcément les documents. Et dans ces cas-là, la banque fermait leur livret d'épargne populaire s'ils l'avaient ouvert. Donc là, maintenant, ça se fait de manière automatique. Ça se fait en transmission, en télétransmission entre la banque et les services fiscaux. Donc ça, ça a permis déjà de stabiliser le nombre de bénéficiaires. Et puis, il y a eu des campagnes, comme l'a indiqué le gouverneur de la Banque de France, auprès des banques qui n'étaient guère incitées pour des raisons de coût à mettre en avant ce produit, parce que rémunéré à 6%, il y a des frais de gestion, donc vous arrivez à 6,4-6,5%, et vous voyez bien que trouver une ressource liquide, parce qu'on est comme dans le livret A, on peut rentrer et sortir à sa guise, rémunéré 6,5%, c'est compliqué aujourd'hui. Hein, globalement, on est toujours un rendement sur le long terme, c'est pas très loin de la croissance, donc... Là, à 6,5, on était très largement au-dessus. Et donc, c'est pour ça que les banques ne le mettaient pas en avant. Elles se sont fait rappeler à l'ordre par le gouverneur et surtout par Bercy. Et donc, elles ont fait des campagnes de promotion. Et donc, c'est un objectif, on va dire, de politique économique. En disant, on fait un effort vis-à-vis des ménages les plus modestes pour qu'ils épargnent. Parce qu'on juge, premièrement, que oui, il vaut mieux que ce soit dans les circuits officiels qu'en les circuits officieux. Et puis, il y a quelque chose qui est lié à la pédagogie. En France, il y a une culture en disant qu'il faut mettre de l'argent de côté. Il y a tous les slogans, tous les dictons sur l'épargne qui existe en France. Et donc, ça rentre dans cette philosophie.
France Culture.
C'est la saison des noix. L'écureuil roux n'hiberne pas. Au lieu de ça, il fait des réserves de nourriture.
Entendez-vous l'écho ?
Ses provisions pourraient lui sauver la vie. Il sait qu'à ce petit jeu-là, c'est chacun pour soi. Il dissimule son butin sous les feuilles mortes ou dans les cavités des arbres.
Aliette Ovine.
Anna Perrin-Hérédia, elle est intéressante cette notion de pédagogie aussi, ce qui motive finalement l'État, de fait la Banque de France, à promouvoir des livrets de type populaire, parce que cette notion-là aussi de culture financière et de la rendre accessible au plus grand nombre, elle infuse depuis des décennies, voire des siècles, on en retrouve les traces dès le 19e siècle, et on ne l'a pas abordé de front, mais c'est peut-être le moment, mais il y a une dimension fortement morale aussi avec cette idée de répandre auprès du plus grand nombre et donc potentiellement des classes populaires, cette idée qu'il est possible d'épargner, ça on le retrouve dès le 19e siècle. Quel est le but finalement de ces réformateurs sociaux du 19e quand ils incitent les populations à épargner?
Oui, alors effectivement, je rebondis aussi encore sur cet écureuil, parce que si on y pense, c'est aussi l'emblème de la caisse d'épargne.
Bien sûr.
Et de la caisse d'épargne, justement. Donc c'est une banque aussi qui a dans son nom la question de l'épargne. Et je parle de la caisse d'épargne d'autant plus que la caisse d'épargne a encore aujourd'hui des associations de promotion autour de l'accompagnement budgétaire, je pense à Financer Pédagogie, etc. Donc voilà, c'est cette culture de l'épargne, elle est portée par tout un tas d'acteurs et de dispositifs publics ou parapublics depuis très longtemps. Et vous avez parlé des réformateurs sociaux au 19e siècle. Mais ça va depuis. Donc j'ai pour avoir travaillé sur les enquêtes de Le Play notamment, où on voit très bien comment la question de l'épargne est fortement valorisée et considérée encore plus comme étant la condition pour les classes populaires de s'extraire de leurs conditions ouvrières, en l'occurrence pauvres, etc. Et c'est par l'épargne qu'elles peuvent s'en sortir. Donc c'est aussi la valorisation de l'épargne, elle est très fortement liée à ça. Et elle est toujours effectivement empreinte de morale, comme vous le dites, puisqu'il y a toujours cette suspicion de... En réalité, il ne ferait pas assez d'efforts. Et donc, derrière, là, j'insiste là-dessus, parce que c'est en réalité, si on reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la consommation versus l'épargne, et donc à quelle part de la consommation on renonce quand on épargne, est-ce que c'est à la consommation superflue ou est-ce que c'est à la consommation indispensable et nécessaire? On voit bien que selon les catégories de population, et bon, plus prosaïquement selon le niveau de revenu, le taux d'effort n'est pas du tout le même. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est souvent sous-estimé, c'est qu'est-ce que ça coûte en fait que d'épargner, à quel point est-ce que on va se sacrifier pour épargner. J'avais une enquêtée, c'était assez intéressant, parce qu'elle avait un taux d'épargne qui était très élevé par rapport à son revenu, et en l'occurrence, elle épargnait la totalité des allocations familiales, donc c'était 650 euros parce qu'elle avait 3 enfants, et un complément, etc. Et elle ne vivait... Non, 2 enfants, pardon. Et avec ses 2 enfants et son mari, ils vivaient sur le salaire du mari, 1450 euros.
Et le reste,
Elle le mettait de côté. Mais pour arriver à ce taux d'épargne-là, en réalité, c'était toute la consommation qu'elle ne réalisait pas, tous les efforts sur elle-même, le contrôle sur soi aussi que ça supposait au quotidien, pour arriver à épargner ces 650 euros par mois. Et il me semble que, voilà, quand on ne prend pas en compte le taux d'effort qui va avec le taux d'épargne, en fait, on oublie quelque chose qui me semble absolument important, c'est que 1 euro égale 1 euro, c'est une proposition qui est mathématiquement vraie, mais qui est sociologiquement archi-fausse, parce que 1 euro, ça n'a pas du tout le même poids pour les 20% des Français les plus riches ou pour les 20% des Français les plus pauvres, et que le 1 euro de plus ou le 1 euro de moins, il n'a pas du tout le même poids, et qu'à mon avis, c'est à chaque fois ça qu'on écrase quand on parle de l'épargne des Français en général, ou de plein d'autres mesures hein, d'ailleurs, c'est à quel point 7 euros-là, il ne vaut pas la même chose, et il n'a pas la même valeur, et il ne renvoie pas à la même contrainte pour aux différents endroits de l'espace social.
Et à la même notion de sacrifice qu'il a fallu accomplir pour pouvoir justement mettre 7 euros de côté. On parlait donc de ce fameux livret d'épargne populaire avec ce taux plutôt très rémunérateur. Aujourd'hui, rien ne va plus. Philippe Crevel, on l'a entendu aussi via François Villeroy de Gao, ce taux va tomber à 3,5%, tandis que celui du livret A va tomber à 2,4% à partir du 1er février 2025, donc dans quelques jours. Là, il faut nous aider à comprendre quelque chose, Philippe Crevel, c'est que ce taux du livret A, il avait été fixé, il avait été gelé pendant un certain temps sur décision de Bruno Le Maire, à ce fameux taux de 3% dont vous parliez. Il avait alors dit, Bruno Le Maire, qu'il s'agissait d'une promesse en faveur de l'épargnant, mais s'il n'avait pas été gelé, ce taux-là, il aurait dû être de 4,1% par exemple au 1er août 2023, puisqu'il s'aligne à la fois sur la politique monétaire de la BCE et aussi sur l'inflation. Alors en quoi était-ce une promesse? Et puis peut-être revenir aussi sur cette décision de le geler en première instance.
Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Vieux dicton, mais qui s'est appliqué en la matière, parce que c'est vrai que Bruno Le Maire donc, avait décidé de geler le taux du livret A du 1er février 2023 au 1er février 2025, en disant que dans un premier temps, les épargnants pourraient être un petit peu perdants, mais que très rapidement, ils seraient gagnants, parce que l'inflation donc, devait diminuer. Le problème, c'est que l'inflation a mis un peu plus de temps que prévu à diminuer. De ce fait, on aurait pu bénéficier d'un taux du livret A supérieur, comme vous l'avez dit, de 4%, jusque donc à la fin de l'année 2023, voire début 2024. Et donc, on a été à nouveau, on va dire, gagnant, mais que très tardivement, à partir de mars-avril 2024, où là, l'inflation a basculé en dessous donc des 3%. Donc oui, il y a eu une petite perte en ligne pour les épargnants du fait de cette promesse qui, au départ, devait être un cadeau et qui n'en a fut pas un. C'est la politique, parce que peut-être que Bruno Le Maire avait d'autres intentions derrière. C'était le financement du logement social. Évidemment, ça permettait d'avoir des taux plus faibles au moment où les taux étaient élevés. En revanche, sur la consommation, ça n'a pas été gagnant parce que globalement, les Français ont quand même mis beaucoup d'argent sur le livret A en 2022 et 2023, comme vous l'avez indiqué, malgré le fait que le taux réel du livret A soit négatif. Mais parce qu'on regarde le taux facial et non pas le taux réel. Et donc les Français, puis il y avait d'autres raisons, le climat anxiogène, donc les Français avaient mis beaucoup d'argent. Malgré tout, aujourd'hui, il passe à 2,4%. Enfin, il va passer le 1er février à 2,4%. parce que l'inflation a baissé, parce que les taux directeurs de la Banque centrale sont orientés à la baisse. Et donc, de ce fait, on applique la fameuse formule et on arrive à 2,4%. Et là, pareil, le gouvernement a quelques intentions derrière.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'il y a potentiellement aussi cette idée de relancer, de fluidifier aussi les choses et de faire en sorte que cet argent circule. Finalement, c'est une forme de signal prix qui est envoyé là. Ce n'est plus aussi rentable qu'avant que de se séparer de son argent pour le placer sur un livret.
Le gouvernement essaie. Le mot « essayer » est important. D'envoyer un message prix en disant « il serait temps de reprendre le chemin de la consommation ». Alors la consommation est relativement atone. Si on la rapporte par habitant, en ce qui concerne la consommation de biens d'équipement, de biens industriels, elle est même en baisse en France depuis 2017. Seule la consommation de loisirs augmente. Et donc le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, souhaite évidemment une petite reprise de la consommation. En partie pour améliorer la situation des finances publiques, car comme on l'a signalé, c'est derrière la TVA qui est le principal impôt de l'État. Et donc s'il y a plus de consommation, plus de TVA, un peu moins de déficit. Mais les épargnants, les ménages, n'obéissent pas forcément qu'à ce seul signal prix, ou taux plutôt, il y a le contexte. Et si le contexte reste anxiogène, si on a peur de demain, si les plans de licenciement se multiplient, si le nombre de défaillances d'entreprises s'accroît, le Français va se dire, ou les ménages vont se dire, il vaut mieux conserver son argent sur le livret A et je ne vais pas donc désépargner sur le livret A. Et c'est ce qu'on constate depuis maintenant 4-5 ans. Donc il n'est pas dit qu'après peut-être un ou deux mois de flottement, nous retrouvions le montant classique de la collecte sur le livret A parce que le climat reste anxiogène, crise politique, situation internationale légèrement complexe, situation économique, pas folichonne.
On le comprend, il y a une forme potentielle d'inertie, en tout cas, ou de stabilité, en tout cas, des comportements des épargnants. Philippe Crevel, on parle depuis le début de cette émission de rémunération de cette épargne. Je vais vous poser une question très simple et très naïve, mais il faut la poser. Au nom de quoi rémunère-t-on l'épargne des Français? Vaste question.
C'est une vaste question. C'est quasiment philosophique, d'ailleurs, comme question derrière. Je ne le consomme pas, mon argent, tout de suite. Je fais le pari sur l'avenir. Je renonce à consommer. C'est un effort, et ça a été dit, à plusieurs reprises. Tout effort mérite rémunération. Et donc le taux d'intérêt, si je prends sur des produits comme les livrets ou sur les obligations, c'est la rémunération pour pas que je consomme immédiatement cet argent. Et donc ce taux d'intérêt, il est calculé, c'est une loi du marché, hein. Je mets à part l'épargne réglementée qui est fixée par l'État, mais si je regarde sur les obligations, c'est également la confrontation entre l'offre et la demande de capitaux. Si on a des besoins extrêmement importants de capitaux pour investir, et si l'épargne est faible, le rendement sera élevé. Inversement, s'il y a beaucoup d'épargne sur le marché et que personne ne veut investir, ça fait baisser le rendement. Alors sur l'épargne réglementée, comme vous l'avez indiqué, la rémunération est fixée sur des considérations d'inflation et de taux d'intérêt des marchés monétaires, donc ça biaise un petit peu. Mais malgré tout, on retrouve quand même un petit morceau d'économie de marché dedans. Après, sur la rémunération des produits comme les actions, là c'est le dividende, c'est les résultats des entreprises, c'est le résultat, donc on va dire, de l'activité économique qui permet de payer le pari sur l'avenir que constitue l'épargne.
On le comprend, donc le rapport à l'épargne nous raconte aussi plus généralement le rapport au risque et au risque économique chez les Français, résultat à la fois d'incitations politiques ou de comportements encore plus profondément ancrés, puis surtout d'une exposition forcément inégalitaire à ce risque. Le choix de l'épargne n'en est peut-être pas toujours un, c'est ce que semble défendre Bourvil.
Des sous de côté, j'en ai pas, ça m'est égal. Moi, pourvu que j'aille au bal, dans les rues du carnaval. Des sous de côté, entre nous ça sert à quoi? L'important quand on aime ça, c'est d'en avoir devant soi. Croyez-moi, pour plaire aux filles, je n'ai pas besoin d'argent. Suffit que je me déshabille pour qu'elles pensent à Tarzan. Quand je me pointe sur la plage près de Copacabana, toutes les minettes en nage. C'est dit, ça y est, leur voilà. Des sous de côté, j'en ai pas, qu'est-ce que ça fait? Je fais de la veille à Santa Fe, vu que le roi du café. Des sous de côté, quand on m'en parle, moi je ris. Les petites économies,
c'est le cadet de mes sourcils. Quand je veux rester un peu sage, histoire de me reposer, je vais dans un coin de la plage et je fais des petits pâtés. Mais quand une beauté fatale vient à Copacabana, c'est plus fort que moi, j'emballe. C'est du non-non, les nanas. Des sous de côté, j'en ai pas, ça m'est égal. Moi, pourvu que j'aille au bal dans les rues du carnaval. Des sous de côté, si par hasard j'en avais, je crois pas que j'hésiterais, c'est à gauche que je les mettrais.
Des sous de côté, c'est le nom de ce titre de Bourvil, mais aussi le sujet de notre émission du jour d'Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours avec Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne, et Anna Perrin-Heredia, sociologue et chargée de recherche au CNRS. Anna Perrin-Heredia, on parlait du dégel du taux de rémunération du livret A, qui va baisser à partir du 1er janvier 2025 et qui est censé inciter à éviter, on va dire, les comportements de fourmis, pour le dire ainsi, et rendre cet argent productif. On faisait cette distinction entre épargne productive et épargne improductive. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de renforcer une forme de polarisation, tout simplement que ceux qui peuvent investir leur argent de façon plus risquée et donc plus rémunératrice vont le faire, ils vont peut-être désengorger leur livret A pour aller sur notamment des actions, ce qui est considéré comme, selon un récent sondage, comme la façon d'épargner la plus risquée, on va dire, et ceux qui ne le font pas, ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette épargne plus risquée, tout simplement d'être cantonnés à des livrets avec des taux relativement faibles et donc de voir les inégalités se creuser par la même occasion.
Oui, je pense que ça renvoie aussi à ce que vous indiquiez tout à l'heure sur la question du fait que tout effort mérite rémunération. On voit bien que les efforts, plus ou moins difficiles, ne sont pas rémunérés de la même façon. Et il me semble que là, en fait, si on regarde un peu justement comment épargne, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais comment épargne les plus riches et comment épargne les plus pauvres, bon, les plus riches, effectivement, ils vont avoir une épargne avec des forts rendements potentiels, donc que ce soit les titres, obligations, mais aussi les assurances, le patrimoine. Un patrimoine, même si on parle de patrimoine, c'est un patrimoine qui prendra probablement de la valeur dans le temps, ce qui est moins le cas qu'on pourra transmettre, et ce qui est moins le cas du patrimoine des plus modestes, qui peut même être un patrimoine qui se dévalue et qui se démonétise, si on pense aux zones rurales, par exemple, qui peuvent se désertifier, ou les patrimoines qui peuvent perdre de la valeur, etc. Donc on voit bien, en réalité, qu'à chaque fois, l'épargne du pauvre ou des pauvres, ça est toujours une épargne plus pauvre ou une pauvre épargne, en tout cas qui est souvent moins rentable, qui va se faire de façon moins... Et donc la question du risque qui peut être pris, c'est aussi le risque, c'est aussi avoir ce qu'on appelle une projection dans l'avenir. C'est pour ça qu'on parle, on met souvent l'épargne en comparaison avec le rapport au temps. Mais le rapport au temps, il est aussi très socialement situé, c'est-à-dire de pouvoir se projeter et imaginer une transmission sur plusieurs générations. C'est quelque chose qui relève des catégories les plus aisées financièrement. Alors que assurer le lendemain, surtout quand le lendemain est très incertain, c'est le fait des catégories les plus modernes. Et donc, si en fait on rapporte ça à la question du risque, en fait, on ne peut pas l'extraire de la question de la stabilité ou de l'instabilité des situations sociales et économiques dans lesquelles les individus se trouvent. Et on voit bien que, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Pierre Bourdieu qui dit « La sécurité est au principe de toutes les audaces ». Et oui, il faut des formes de sécurité pour s'autoriser ou se permettre d'être audacieux, y compris économiquement.
Philippe Crevel, on a prononcé un mot qui est très important, celui de rentabilité. Or, il y a un sondage d'Opinionway qui a été publié en décembre 2024, selon lequel seuls 25% des sondés ont affirmé ajuster leur stratégie d'épargne pour se protéger de l'inflation, et 27% ont mis en priorité le rendement. Et là, il faut aussi distinguer, ce qu'on disait en début d'émission, l'épargne de l'investissement. Dans quelle mesure certains ménages épargnent justement en quête de cette rentabilité, avec cet espoir d'avoir une forme de rendement et de fait une forme de revenu aussi tiré de cette épargne?
Alors, c'est vrai qu'en France, la priorité, c'est souvent la sécurité, c'est la liquidité. Et cela fait le succès, évidemment, des livrets, également des fonds euros de l'assurance vie. Et l'assurance vie, c'est le premier placement des ménages. C'est près de 2000 milliards d'euros. À peu près un ménage sur deux en France détient un contrat d'assurance vie, enfin au moins un contrat d'assurance vie. Et dedans, il y a ce fameux fonds euro qui bénéficie d'une garantie en capital. Donc, je mets 100 euros, je suis sûr de retrouver mes 100 euros quoi qu'il arrive. Et ça représente 3/4 des contrats d'assurance vie en encours. Et donc cette priorité donnée en fait à la sécurité explique évidemment que les Français regardent peut-être un peu moins le rendement par rapport à des Américains ou par rapport à des Britanniques. L'autre point important pour les Français ou les ménages donc vivant en France, c'est la liquidité. C'est la possibilité de retirer à tout moment son argent sans subir de perte. Donc là, on retrouve la sécurité. Et donc la liquidité, évidemment, les livrets, c'est ce qui est donc le plus facile d'accès liquide, mais également les fonds euros de l'assurance vie, c'est relativement liquide. Et ça va aller donc un peu moins sur les actions, les unités de compte des contrats d'assurance vie, parce que on n'est pas sûr d'avoir le même montant au moment où on va sortir par rapport à ce qu'on aura versé, même si potentiellement dans le temps, ça a des rendements supérieurs. Mais la prise de risque fait qu'un grand nombre de ménages donc s'y refusent. Et comme ça a été indiqué par Anna, c'est vrai que là, les comportements sont évidemment liés aux revenus, liés également à l'âge. C'est que les ménages les plus modestes, qui ont durement économisé, parce que justement, il a fallu sacrifier par rapport à la consommation quotidienne, ne souhaitent pas, évidemment, prendre de risques. Et je peux les comprendre. Les ménages les plus âgés, là, il y a l'aspect sécurité. Je veux transmettre mon patrimoine ou je veux bénéficier d'argent parce que j'ai peur de la dépendance, j'ai peur d'un problème de santé, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Et donc, ceux qui prennent des risques, ce sont plutôt les 20 à 10% des ménages les plus aisés, qui se situe entre 45 et 60 ans, pour faire relativement simple. Parce que là, pareil, je fais des moyennes. C'est évidemment, il y a des comportements donc différents pour chacun des ménages. Parce que l'épargne, c'est vraiment une affaire individuelle de propension à prendre du risque, à avoir une connaissance de produits. Et c'est culturel.
Philippe Crevel, ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit, c'est un calcul très personnel finalement, un calcul très individuel qui se joue là. Or, on l'a dit aussi un peu plus tôt dans l'émission, l'épargne, elle a une fonction, elle est mobilisée aussi. On vous l'avait dit, l'argent ne dort pas dans les livrets. Or, si on se dit que certains ménages, voire la plupart, sont très averses au risque et n'ont pas forcément envie de placer leur épargne sous forme notamment d'actions, et de fait, ces actions, c'est une forme de financement pour les entreprises. Comment on fait pour pallier à ça? Comment on peut faire notamment le gouvernement pour... qu'est-ce que ça modifie fondamentalement sur la capacité à se financer et notamment des entreprises françaises?
Alors c'est un débat, c'est une antienne. Mais tout à l'heure, il y a eu un reportage sur les années 70. En 1978, un ministre de l'économie, René Monory, avait lancé les 6 caves Monory avec un avantage fiscal pour inciter les Français à prendre des actions. Nous voyons que près de 50 ans plus tard, le débat reste entier. Bruno Le Maire, quand il était ministre de l'économie, a créé le plan d'épargne retraite avec cet objectif en disant les Français doivent préparer leur retraite, mais également doivent investir dans les entreprises et via ce fameux PER, ils vont pouvoir le faire.
PER qui n'a pas connu un grand succès.
C'est une centaine de milliards d'euros d'encours. Il y a donc à peu près 20% des ménages qui ont 20% des actifs qui ont aujourd'hui un PER.
C'est pas de l'argent extrêmement liquide non plus.
C'est pas de l'argent. Ah non, nous sommes là sur de l'épargne de long terme par définition. Mais donc l'idée évidemment de l'orientation de l'épargne vers les entreprises, c'est un vieux sujet. Mais je dirais que l'État a des objectifs contradictoires. D'un côté, il demande aux Français mettez de l'argent sur les entreprises, financez les entreprises françaises ou européennes. On a créé le plan d'épargne action pour cela également. Mais de l'autre côté, l'État a besoin d'argent pour financer son déficit public. Et donc là, l'État est assez heureux, enfin, ou le ministre de l'économie est assez heureux pour que l'argent aille sur les fonds euros de l'assurance vie ou sur les livrets, parce que le livret A, c'est le logement social, mais ça finance également, il y a 50% du livret A qui finance donc l'État en direct pour assurer la liquidité du produit. Donc on voit bien qu'il y a des objectifs contradictoires de la part de l'État qui se traduit d'ailleurs par des avantages fiscaux sur tous les produits. On va du court terme, livret A, exonération d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, jusqu'au PER, incitation fiscale pour mettre de l'argent sur son PER, l'assurance vie, évidemment, avantage fiscal, le PEA, plan d'épargne en action, avantage fiscal. Donc évidemment, dans ces cas-là, il n'est pas étonnant que le Français regarde où se trouvent les avantages fiscaux, prend ce qu'il a à prendre, et qu'on ne soit pas forcément dans une orientation action, comme on peut l'avoir dans d'autres pays. Alors dans les autres pays, il y a une orientation action forte, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, parce que ce sont des pays de fonds de pension. En France, on a fait le choix d'une retraite par répartition forte, qui est en débat à l'heure actuelle, nous le savons tous, et tous.
Donc potentiellement moins besoin de...
Potentiellement, en fonction des discussions, etc. Voilà. Mais globalement, dans les pays à fonds de pension fort, c'est vrai qu'il y a une plus forte propension à financer les entreprises via les actions.
Merci infiniment Philippe Crevel et Anna Perrin-Hérédia d'avoir participé à cette émission.